On est heureux de continuer la série Découvrir Jésus, où chaque semaine, on découvre la vie de Jésus, ce qu'il a fait il y a 2000 ans sur cette terre. Jésus a vécu 30 ans sur cette terre avant de passer à la croix, mourir et ressusciter. Et dans l'évangile de Jean, on passe au travers de toutes les histoires. Chaque dimanche, il y a des histoires de Jésus où on continue de découvrir Jésus. Et à chaque fois qu'on regarde une histoire de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une histoire qui s'est passée il y a longtemps, c'est Dieu qui parle aussi pour nos situations d'aujourd'hui. Alors, si vous avez un cœur ouvert, les oreilles ouvertes pour entendre le message que Dieu a pour vous aujourd'hui par sa parole, alors qu'on va regarder une histoire dans le chapitre 20, dans l'évangile de Jean, Dieu va vous parler. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce matin? Et on a besoin de lire la parole et de la connaître, parce que souvent, ce qui me faisait rire cette semaine, c'est que je questionnais mon fils au niveau de ses habiletés bibliques. C'est un peu comme à NV Junior, à l'éducation chrétienne, il y a un moniteur qui a demandé à une petite fille à la classe, qui pouvait me dire quel est le personnage qui, dans la Bible, à un moment donné, il y a eu un miracle, il a parlé avec son âne, et elle, tout de suite, elle lève la main, c'est Shrek. Non, Shrek n'est pas dans la Bible. Il y a une histoire similaire, mais c'est pas pareil. Et cette semaine, j'ai testé mon fils Lenny à 7 ans. Et puis là, à table, je lui parlais. Puis je lui disais, hey, tu connais la Bible? T'as déjà entendu un petit peu? Alors réponds avec ça, OK? Celui qui demande, il reçoit. Vous devez réviser vos classiques. Celui qui cherche, il trouve. Et je termine en disant, et celui qui frappe, il dit, on le frappe. Non, c'est pas ça. Faut revoir un petit peu, tu sais, il faut tendre l'autre joue. On a deux réponses sur trois quand même, il faut féliciter. On encourage les petits commencements. Mais il faut connaître la parole, blague à part, parce que c'est cette parole-là qui nous donne de comment savoir comment marcher dans cette vie. Dieu a des plans parfaits pour nous. Il a un avenir, une espérance pour chacun d'entre nous. Et au plus, on lit, on comprend, on met en pratique les principes qu'il y a écrits dans ce livre, qui est la parole vivante de Dieu. Eh ben, notre vie avance. Notre vie est restaurée. On avance dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut remercier et applaudir la parole de Dieu ce matin qui va encore parler? Et on regarde, on découvre Jésus au travers de l'évangile de Jean. Et le but ultime de l'évangile de Jean, il est dit en Jean 20, 31, ça dit, « Afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et c'est exactement cela qu'on veut faire aujourd'hui encore. On veut apprendre à découvrir qui est Jésus, parce que Jésus est plus que ce que la société dit qu'il était. Un bon enseignant, un maître de morale, quelqu'un qui a amené une belle philosophie de vie. Non, bien plus que ça, Jésus était le Fils de Dieu. Dieu parfait, incarné sur cette terre pour vivre parfaite, une vie parfaite, et ensuite mourir pour nous donner la vie. Il est mort pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Alors c'est bien plus qu'un homme qui a lancé une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie, pas du tout. Le nom de Jésus nous donne la liberté sur nos dépendances, elle nous donne la guérison dans notre corps, elle nous donne le salut pour que même si cette vie ici se termine, nous soyons avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est le Jésus que nous prêchons. Toutes les autres idées de Jésus qu'on a dans cette société comme « Oh, c'est un homme qui était… » Non. Il n'y a rien d'autre que le Fils de Dieu, et nous devons comprendre aujourd'hui que notre vie doit être cachée en lui. Parce que si tu cherches à être la meilleure version de toi-même dans cette vie, tu ne le seras seulement qu'en étant en Christ. Et Christ en toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il y a quelque chose de fort, alors qu'on va regarder aujourd'hui au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Si vous avez votre Bible, je vous donne le temps de chercher, on va le lire dans le chapitre 20 dans quelques instants. Avoir sa Bible, c'est de pouvoir surligner les passages importants, questionner le texte, il y a quelque chose d'incroyable. Si vous n'avez pas votre Bible, ça va être sur l'écran. Mais on va regarder un chapitre 20, et je vais vous donner un peu le contexte. Le chapitre 20 nous montre que, même si les gens connaissaient Jésus, ils le découvraient à chaque jour, l'un des disciples passe par un moment difficile dans sa vie. Et ça nous est tous arrivé d'avoir une marche spirituelle, une marche de foi, une démarche de foi même pour apprendre, et passer par un moment difficile. On passait par des moments tellement difficiles qu'on en vient à douter de qui est Jésus. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Et on va regarder ensemble, voici le contexte. C'est que Jésus a vécu 30 ans sur cette terre, et les trois dernières années de son ministère, il a formé des disciples, 12 disciples qu'il a choisis pour leur montrer comment annoncer le royaume de Dieu. Que Dieu n'était pas là pour condamner l'humanité, au contraire, il était là pour aimer l'humanité et se réconcilier avec. C'est pour ça que Jésus a annoncé la bonne nouvelle que Dieu n'est pas contre vous, Dieu est pour vous. Mais revenez à lui, repentez-vous et Dieu sera réconcilié avec vous. Jésus venait pour non seulement vivre, enseigner, mais aussi pour souffrir, mourir injustement à la croix, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Il est mort pour nous donner sa vie. Et alors qu'il est mort à la Pâque, il a été crucifié sur la croix. Donc on voit la croix aujourd'hui, elle est vide, mais il y a 2000 ans, il y avait quelqu'un qui était tenu dessus. Jésus a été crucifié, c'est-à-dire que sur le bois, on a mis des clous pour le tenir, dans ses mains et dans ses pieds. Et quelques heures après avoir cloué Jésus, il est mort sur cette croix. Et pour être certain qu'il était mort, il y a un des officiers romains qui est venu et a pris une lance et a percé son côté pour aller voir jusqu'au cœur. Et il était mort. C'était son arrêt de mort officiel par l'État romain. C'était important qu'il soit déclaré mort parce que si jamais il avait survécu, c'était l'officier romain qui était en charge qui, lui, aurait eu la peine de mort. Donc, lui était certain que si je prends et je perce le cœur à l'intérieur en perçant le côté, Jésus serait bien mort. Alors, je vous donne juste le contexte parce que les disciples, à ce moment-là, voient leur sauveur mort. C'était une mauvaise nouvelle pour eux. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais eux, à ce moment-là, ce vendredi-là, voient leur sauveur complètement déchu pour eux. Il y a un côté où ils ont perdu, ils sont troublés. Ils voient les clous, ils voient le côté, ils voient la mort de Jésus. Il est pris et emmené dans le tombeau. Et à ce moment-là, tous les disciples, il y a une grande stupeur. C'est le trouble. On a perdu. Il faut qu'on parte. Alors ils sont dispersés un petit peu ça et là. Et 3 jours après, Jésus ressuscite, mais tous ne le voient pas. Alors Jésus, il fait une apparition après être ressuscité. L'Esprit de Dieu ressuscite Jésus dans le tombeau et Jésus a son corps maintenant glorifié. Et avant de remonter au Père, l'ascension, Jésus passe plusieurs jours avec ses disciples. Et la première apparition que Jésus fait à ses disciples, on va le lire ensemble. Le problème, c'est qu'il en manque un quand ils sont tous réunis. Il manque celui qu'on appelle Thomas. Thomas était un des disciples qui, lui, au moment où Jésus revient voir les siens, il n'est pas là. Et alors que eux voient Jésus ressuscité, ils sont incroyablement époustouflés, imaginez. Ils ont vu leur sauveur mourir, et là, ils le voient devant eux, avec les marques, avec toutes les souffrances, les cicatrices, mais son corps glorifié, il leur donne des enseignements, quelque chose d'incroyable qui se passe, imaginez. Et eux, alors qu'ils étaient tous complètement déçus de ce qui s'était passé, là, ils ont une joie époustouflante. Et lorsqu'ils rencontrent Thomas, ils ont un témoignage incroyable. Regarde ce qu'on a vécu, on a vu notre sauveur, on a vu Jésus devant. Mais Thomas, et la société l'a bien nommé le douteux, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Il dit exactement ça, il dit, moi, je vous crois pas. Tant que je ne vois pas les marques, tant que je ne mets pas mes mains là où il y a eu les cicatrices, je ne croirai pas. Et alors, on va regarder à ce texte ici, vraiment une histoire, le chapitre 20, qui est incroyable, et je crois qu'elle va parler à plusieurs ici. Parce que des fois, la marche chrétienne est difficile et le doute prend place. Et parfois, il y a quelque chose de fort parce que t'essayes d'avancer, tu voudrais tant, mais il y a quelque chose en toi qui te bloque parce qu'il y a plein de doutes. Aujourd'hui, on va parler du doute et on va lire ensemble Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Êtes-vous là? Vous êtes prêts à la parole de Dieu? On la lit ensemble. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, donc une semaine après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Fais-moi confiance. » Ce que Jésus veut nous dire à chacun d'entre nous ici et surtout à ceux qui doutent, c'est « Fais-moi confiance. » La première vérité qu'on voit dans ce message et qui est vraie pour nous également, c'est que alors que Thomas était là rempli de doutes, Jésus est venu à sa rencontre. Jésus ne le condamnait pas, il voulait le rassurer. La première vérité, c'est que Jésus comprend tes doutes. Et je vous apprends rien, mais j'espère. Hein. On a tous des doutes dans notre vie chrétienne. Vous me regardez comme si j'étais le seul. Ah bon, le pasteur, il a des doutes? Ben bravo, on va commencer à chercher notre église. Peu importe l'église où vous irez, nous sommes juste des êtres humains. Oui, racheté, justifié, mais nous sommes dans un corps et dans une intelligence qui est corrompue. Et même si la parole de Dieu vient comme un marteau briser les faux raisonnements, les doutes reviennent parfois. Est-ce que je suis le seul? Levez la main ceux qui ont déjà eu des doutes. Il y a du monde qui se comme, non, moi je suis, ok, parfait, je vais vous donner ma place. Mais il y a comme quelque chose de fort parce que les doutes font partie de la vie chrétienne. Le problème ne sont pas les doutes, mais ce que tu fais avec. En fait, les doutes sont comme des tentations, tu ne peux pas les empêcher. J'aime cette citation qui dit, les doutes sont comme des oiseaux. Tu ne peux pas empêcher qu'ils volent au-dessus de toi, mais tu peux empêcher qu'ils fassent leur nid sur ta tête. Il faut qu'on soit vrai avec les temps dans lesquels on vit. Même si on marche avec la foi, même si on est justifié, même si on est certain de la parole de Dieu, parfois il y arrive des doutes. Avant que je me convertisse, mon premier doute était, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou alors, tout ce que parfois on m'enseigne à l'école, avec le côté où rien a tout créé, il y a quand même quelque chose où à un moment donné, c'est comme, est-ce que Dieu existe vraiment? Tous ceux qui sont à l'université en ce moment, au cégep, même au secondaire, tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui est un côté où il n'y a pas besoin de Dieu. Dieu est mort, et puis la philosophie, et puis Nietzsche, et tout cela. Il y a encore, je prêchais ce même message ici à Nueva Vida hier. Il y a une fille de 11 ans qui est venue me voir après le message, elle me dit, moi je suis ridiculisée à mon école. Elle a 11 ans, et son professeur la ridiculise devant tout le monde parce qu'elle est croyante. Imaginez, il y a quelque chose où on parle de tolérance. Il n'y a pas de tolérance envers les chrétiens. C'est vraiment, il faut montrer que c'est moyenâgeux. La croyance en la spiritualité, en Dieu, on n'a pas besoin de ça. On est rationnel, on est logique. Il y a comme une pensée de doute même sur Dieu. Surtout au Québec, aujourd'hui en 2022. Il y a un côté où il y a plusieurs sociétés, plusieurs cultures où Dieu est omniprésent, où la spiritualité est partout. Au Québec, pas du tout. Elle n'est pas encouragée, vrai? On vit dans le même Québec. OK. Par contre, il y a une église qui se lève et qui proclame. Et on voit des gens avoir une soif. Et même s'ils pensent ne pas avoir besoin de Dieu, leur cœur crie, leur âme dit, je cherche une vérité, je cherche la lumière. Et quand on proclame, quand vous, dans votre famille, avec vos collègues, vous parlez, vous témoignez, avec la simplicité de ce que vous avez, le Saint-Esprit vient allumer un feu dans ces gens et ils sont à la recherche. Alors ne vous arrêtez jamais d'être la lumière du monde. C'est pas juste les pasteurs à l'église qui sont la lumière. Non, vous êtes la lumière du monde. Quand on quitte cet endroit, soyez investis d'une mission de dire, je sais que j'ai la vérité, le chemin, la vérité, la vie, alors je vais le proclamer. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui se sert de nous partout où nous sommes? Des doutes comme, est-ce que c'est réellement Jésus, la vraie vérité? Tous nos amis sont de religions différentes et puis ils nous disent « Voici, moi, ma religion est meilleure. Voici, moi, mon Dieu est meilleur. » Est-ce que c'est réellement Jésus, le vrai chemin? Est-ce que ça peut pas être juste un chemin avec les autres? On peut pas tous les additionner comme ça. On se fait un éventail de religions comme ça. On est certain de pas le louper. Il y a comme un côté exclusif où on doute parfois. Est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que tu lis ça et puis tu dis « Il y a des choses que je comprends pas. » Ça fait du sens dans une culture en 2022. Est-ce que c'est vraiment ça, tu sais? Est-ce que la pureté avant le mariage, et puis la confiance, et puis tout ça, est-ce que ça marche vraiment, ça? On est en 2022, Ben. Je peux pas me dire que c'est toujours des principes qui sont là, vraiment. Je veux le dire à quelqu'un ici. Peut-être un jeune qui se dit, j'essaie de me tenir pour les valeurs chrétiennes, mais c'est tellement difficile autour de moi, il y a une pression. Surtout avec la sexualité aujourd'hui, c'est hyper sexualisé. Si t'essayes pas 40 000 choses avant de trouver quelqu'un, et puis d'arriver dans ta vingtaine, t'es vraiment has-been. J'aimerais te dire à toi, quelqu'un peut-être qui lutte avec les tentations et puis en ce moment la pression, ce qui est unique est précieux. Ce que tu penses en ce moment que tout le monde dit, c'est la honte. Si tu as 18 ans, 20 ans, 22 ans, oh wow, t'as même pas encore couché, c'est comme la honte. Je te le dis, le jour où tu seras marié et puis le pasteur donnera la bénédiction, tu diras, je suis fier de moi. Si en ce moment tu as une pression, peut-être dans 2 ans, tu seras plus au secondaire, tu seras plus à l'université et la fierté que tu auras sera que tu te seras tenu devant Dieu. Parfois, ça fait aucun sens, mais je vous le dis. Les pressions que j'avais à 16 ans, aujourd'hui, je me dis, mais sérieux, merci Seigneur que je me suis gardé dans ta parole. Parce que ce qui faisait peut-être ma honte devant tous mes amis à 16 ans, aujourd'hui, ça fait ma fierté. Et une solidité que même si je ne comprends pas tout de la parole de Dieu, même si des fois ça fait pas aucun sens, je dis, est-ce que je suis ces principes-là? Mais en 2022, on va tous par là. Et puis Dieu me dit, non, c'est par là. Et ben ça en vaut le coup. Même si je doutais à 16 ans, aujourd'hui, je sais que c'est la vérité. Et vous le savez également. Parce que toutes les choses que je pensais que ça ferait peut-être pas de sens, petit à petit, le long de ma vie chrétienne, Dieu m'a montré et m'a prouvé que sa parole était vraie. Il a changé le mal en bien. Il m'a montré que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas toujours facile, mais lui, avec son esprit, avec sa parole, avec son église, nous fortifie et nous fait marcher de grâce en grâce, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est patient envers nous? Mais peut-être certains ici ont des doutes en ce moment. Est-ce que si je continue à pécher, Dieu m'aime encore? Est-ce que d'obéir à Dieu, ça fait du sens? Je vois qu'il n'y a rien qui change dans ma vie. Est-ce que je suis vraiment pardonné? Est-ce qu'il y a comme une vie après la mort? Est-ce qu'il y a vraiment un paradis, un enfer? Ça me paraît comme des fables. Est-ce que c'est vrai? Je vous le dis, bienvenue, nous sommes tous à nous poser des questions et des doutes. Je termine ma réunion hier et ce matin, des dizaines de personnes viennent me dire « Le message était à point parce que même si je suis fort dans ma foi, il y a des doutes qui sont de plus en plus forts. Il faut que nous comprenions que les doutes font partie de la vie. Mais Dieu veut nous augmenter notre foi pour nous donner une dose de confiance en lui, que même si j'ai pas toutes les réponses à mes questions, Dieu est souverain et je lui fais confiance. Jésus aujourd'hui te dit « Fais-moi confiance ». Dis-toi avec moi « Fais-moi confiance ». Le doute, c'est paralysant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais moi, avant de venir au Québec, je me cherchais dans ma voie. Je ne savais pas si j'étais appelé au ministère et tout ça, je voulais servir. Mais j'ai toujours voulu devenir pompier. Mon père était pompier, puis je le voyais comme le sauveur. Waouh, il éteint des feux, il va sauver la veuve, l'orphelin, il y a quelque chose. Waouh, c'est incroyable. Et donc, je me suis dit, je voudrais devenir pompier. Donc, je passe le concours. En France, il y avait des milliers de personnes qui passaient le concours pour des dizaines de places vacantes. Donc, on travaille fort pendant des mois. Il y a 3 épreuves à faire. La première, c'est il faut passer le sport. Alors j'ai travaillé fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait être flexible comme moi. Je suis flexible comme une personne de 96 ans. Ok? J'arrive même pas à toucher par terre. Il fallait pour le concours pouvoir poser ma main par terre sans plier les genoux. Combien sont capables de le faire? Ok? Donc vous comprenez le struggle. J'ai travaillé pendant des mois puis j'y suis arrivé de peu là. Donc je valide le sport. Yes, activité physique c'est bon. Ensuite il y avait une épreuve de français. Je travaille fort puis je l'ai. Super. Arrive l'épreuve la dernière que je redoute, les mathématiques. Vous êtes avec moi? Je suis 0 en mathématiques. Ce qui fait que je travaille fort, il fallait apprendre des formules géométriques et tout ça. Donc j'apprends ça. J'essaye de tout retenir et puis ça, je travaille fort. Et j'arrive le jour de l'épreuve et j'ouvre le papier. C'était une épreuve de 4 heures, je pense. J'ouvre le papier et il faut résoudre une formule géométrique pour ensuite passer à tout le reste. Vous me voyez venir. La figure géométrique, c'était la seule. J'étais pas certain que c'était ça. Je me souviens encore, ça m'a traumatisé. Le cône cylindrique. Qui ici connaît la formule du cône cylindrique? Levez pas la main, vous allez me traumatiser encore plus. Donc, je l'avais comme appris, mais je ne savais plus. Et je vous le dis, pendant plus de 2 heures, j'étais paralysé, je ne savais plus où aller. Est-ce que c'est cette formule-là? Il faut commencer par le cône, le cylindre. Et puis là, vous avez déjà tous fait ça. T'es en train de suer ta vie. Tu pries Jésus, s'il te plaît, reviens maintenant. Et là, tu te retournes, puis les gens derrière, ils sont là. Oh, ouais. Est-ce que je peux avoir une feuille en plus, s'il vous plaît? J'ai pas encore fini. Oh, ouais. C'est ça, ça fuse. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, je continue. Mais en fait, je suis paralysé. Pendant 2 heures ou 3 heures, réellement, paralysé. Le doute me paralyse. Ça vous est déjà arrivé? Après, je me dis, OK, assume-toi, Ben. Prends une formule et vas-y. Alors là, pendant mes 2 dernières heures, je commence, je refais, j'assume tout et je termine juste à temps. Waouh, je rends ma copie, je sors, je parle à personne parce qu'il faut jamais parler à quelqu'un parce que, hey, c'est bien cette formule-là. Non, je vais rien entendre. Laisse-moi dans le doute et dans... Je pars et là, je me dis, garde, assumé, c'est bon, t'as donné ton meilleur, t'as fait ce qu'il faut. Et là, 2-3 semaines après, je reçois la lettre à la poste pour les résultats. Alors là, je vous le dis, c'était un film. Je vois ça, je prends l'enveloppe, je l'ouvre en slow motion. Là, tu sais, je vous dis, ça, c'est un moment mémorable. J'ouvre et je regarde les résultats et devinez quoi? Je suis devenu pasteur. J'ai eu 4 sur 20, je pense. Et ils ont été généreux. Il a marqué son nom, il a marqué la date. Bon, allez, donne-lui 4 points. C'était un fail total. Le doute m'a paralysé, comme je ne savais pas. J'ai pris une option, puis en fait, elle m'a amené nulle part. Blague à part, c'est que le doute peut nous paralyser. Là, c'est drôle parce que j'ai trouvé ma voie. J'ai éteint plus des feux. Quelqu'un m'a dit, maintenant, tu en allumes spirituellement. Ouais, c'est vrai. Mais dans une vie spirituelle, si tu doutes en ce moment de Dieu, il y a un frein qui se passe. Tu voudrais avancer. Tu vois les gens louer ce matin, les gens, les mains dans les airs. Waouh, cette passion, je la veux. Mais j'ai des doutes. Est-ce que je peux? Tu chantes plus comme avant. T'arrives plus à lire ta Bible comme avant. T'arrives plus à prier. T'as l'impression que tes prières font, plaf, elles tombent par terre. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi j'arrive pas à passer dans ce pattern-là? Pourquoi j'ai toujours ça qui me... Et là, tu commences à questionner. Et ton doute commence à t'emmener dans un chemin d'incrédulité. Où tu commences à ne plus rien croire et tout mettre en question. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de fort qui se passe parce que tu te dis, mais à quoi ça sert de continuer à faire ça? Et là, tu t'éloignes petit à petit. Voici les dangers du doute. Parce que le doute arrive souvent quand on est isolé. Pour Thomas, dans ce texte, c'est qu'il devait être là avec les autres disciples. Jésus avait dit, il va se passer quelque chose, le berger va être frappé et les brebis vont se disperser. Mais il y a un côté où restez ensemble, soyez ensemble, tenez-vous, priez, persévérez. Et lui n'était pas là quand Jésus est arrivé la première fois. Ça nous prouve que dans l'isolement, on peut être faible. Et c'est là les doutes, les tentations, l'ennemi essaye de nous amener à nous écarter du troupeau. Et je vous le dis, ça ne veut pas dire que dans l'église locale, c'est la seule manière où Dieu parle. Non, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans ta job, le mardi soir, quand tu quittes, tu es tout seul dans la voiture, tu pries, Dieu est là, il t'entend, il te répond, vrai ou pas? Mais je crois aussi qu'il y a une bénédiction spéciale et une faveur où Dieu parle à son église quand nous sommes réunis. Dans l'isolement, il y a un danger à être là. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, on est sorti d'une pandémie mondiale où on a été en confinement pendant des années. Et il y a des personnes que je pensais fortes spirituellement qui se sont vues être complètement éloignées de Dieu. Dans l'isolement, il y a un danger. Aujourd'hui, je te le dis vraiment, même si tu as des doutes, continue de rester dans une atmosphère de foi. Continue de venir. Continue. Dis-toi, je veux me garder à côté des gens que quand ce matin, on élevait Jésus. Même si en ce moment, t'es faible, il y a quelqu'un à côté de toi qui est fort. Quand toi, tu te sens complètement vide, il y a quelqu'un qui vient poser sa main sur toi, prie sur toi, et le Saint-Esprit te ranime. C'est ça, l'église locale. C'est que Dieu veut aussi parler et relever celui qui doute. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu pour cette maison spirituelle? Thomas était absent, pourquoi? Je ne sais pas, est-ce qu'il avait d'autres priorités? Est-ce qu'il était reparti à son business? Est-ce qu'il était déçu? Regarde, mon sauveur est mort, ça ne sert plus à rien, je pars. On a besoin d'être ensemble pour louer, prier, se défier, être confronté, être enseigné, être soutenu. Ce n'est pas un travail religieux de venir le dimanche et de faire « Oh, il faut que je le sois, si je n'y vais pas, Dieu ne va pas être content de moi. » Non, c'est pas... Oui, c'est pour Dieu que tu viens, mais c'est également pour toi. Quand tu viens, tu adores Dieu, tu as mille et une raisons de le remercier. Mais alors que sa grâce est là, alors qu'il siège au milieu des louanges de son peuple, il y a une bénédiction qui est là. Et quand on ressort de ce lieu, on a un feu qui est encore plus grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le doute aussi intervient quand ce que tu entends des autres, le témoignage des autres ne te suffit plus. Thomas était là, il rencontre les gens qui ont eu une révélation de Jésus-Christ, une rencontre avec lui. Mais leurs témoignages ne lui suffisent plus. On a vu Jésus ressuscité, il y a quelque chose de fort. Et lui, quelle est sa réponse? Si je ne vois pas, si je ne touche pas. Je ne croirais pas. Même les témoignages des gens autour de toi qui devraient te pousser et te motiver, des fois tu te compares et tu te dis « Garde, moi je n'ai pas vécu la même chose que toi ». Ça vous est déjà arrivé de questionner Dieu, de commencer à douter, de dire « Moi je prie depuis des années pour cette bénédiction et puis cette personne-là, elle a ce que moi je prie et je n'ai pas encore reçu ». Et puis je demande ça à Dieu et puis ça ne vient pas comme j'ai vu. Ou alors pourquoi je vis cette situation alors que d'autres sont bénis? Les méchants prospèrent et les justes sont comme affaiblis. Comment ça se fait ça? Et tu commences à douter de la bonté de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Parce que dans le témoignage des autres, des fois, ça ne suffit plus. Des fois, c'est le doute. Les miracles d'hier ne suffisent plus. Thomas avait vu Jésus chasser des démons, des gens qui étaient possédés. Il avait vu des malades être guéris. Les évangiles nous disent aussi que Thomas était là lorsque Lazare est ressuscité. Quel plus grand miracle que ça, vrai ou pas? Il les avait vus, il savait que c'était vrai. Mais à ce moment-là, le doute entre dans son cœur. Est-ce que ça serait possible pour Jésus? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça s'est déjà arrivé, ça? Tu vis quelque chose de fort il y a quelques années et aujourd'hui, tu commences à rationaliser. Est-ce que c'était juste émotionnel? Est-ce que c'était vraiment ça? Mais pourquoi je suis comme ça alors? Pourquoi je suis sec en ce moment alors que je devais être enflammé, passionné? Le doute, des fois, entre dans ton cœur. Alors que Jésus te dit aujourd'hui, fais-moi confiance. Tu es peut-être blessé, déçu, fatigué. Et le doute prend la place, mais Jésus te comprend. Jésus comprend tes doutes et il te dit, fais-moi confiance. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a de l'espoir. Voici pourquoi. Le texte nous dit que la première fois où les disciples étaient réunis, il y en avait un qui manquait, c'était Thomas. Par contre, 8 jours après, Thomas était où? Avec eux. Malgré ses doutes, il recherchait la vérité. Si tu es là et que tu es rempli de doutes, ça prouve que tu recherches la vérité. Tu dis, je ne vais pas juste quitter et m'en aller loin. Non, même si j'ai des doutes, même si j'ai de la souffrance dans mon cœur, je marche dans ma vie chrétienne, pas forcément comme je veux. Des fois, je suis bancal un petit peu, mais je vais quand même y être parce que si Dieu veut se révéler, il va se révéler à celui qui cherche. Celui qui cherche, trouve. Et Dieu répond à celui qui frappe. Il ouvre la porte. Et si tu es là aujourd'hui, c'est exactement comme Thomas. Lui, doutait une semaine avant, il a comme douté sans doute toute la semaine, mais le dimanche d'après, il était avec tout le monde. Si tu es là aujourd'hui, il y a de l'espoir. Et non, on ne pourra pas voir Jésus physiquement comme lui l'a vu. Lui, Thomas, a eu le privilège de voir Jésus glorifié. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas le voir physiquement. Par contre, nous pouvons le voir avec les yeux de la foi. La présence de Dieu est ici ce matin. Même quand on faisait la louange, il y a quelque chose dans ton esprit que tu entends. Et je vous le dis, nous sommes corps, âme et esprit. Au Québec, on a l'habitude de savoir parler du corps et de l'âme, mais pas de l'esprit. L'âme, c'est les émotions, le corps, c'est notre corps. Mais l'esprit, Dieu parle à travers notre esprit, son esprit à notre esprit, vous êtes d'accord? Et dans la louange que nous sommes là, nous connectons notre esprit avec son esprit. Oui, nous chantons avec notre corps, nous ressentons avec notre âme, mais nous devons être en parfait diapason avec notre esprit et son esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu ouvres les yeux de ton cœur, si tu demandes, Seigneur, ouvre-moi, donne-moi les yeux de la foi, tu vas voir Jésus comme Thomas l'a vu. Et lui a vu physiquement, mais toi, tu peux le voir spirituellement. Combien savent que Jésus est dans ce lieu? Le Sauveur est dans ce lieu. Le Roi est dans ce lieu. Sa présence est ici. Son esprit est ici. Et il dit la même chose que pour Thomas. Fais-moi confiance. Malgré tes doutes, Thomas était là à la bonne place. Et si tu es là, Jésus a une parole pour toi. Jésus apparaît une seconde fois. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'alors que Jésus était là la première fois, il revient une seconde fois. Et alors que j'étudiais le texte, j'ai été complètement époustouflé. Pourquoi? Parce qu'il réapparaît une deuxième fois à ses disciples une semaine après. Mais à qui il vient parler spécifiquement? À Thomas. Le seul qui normalement aurait pas dû être digne que Jésus s'adresse à lui parce qu'il doutait, parce qu'il n'était pas là la première fois, il était en retard, parce que il y en a peut-être qui étaient en retard aujourd'hui. Dieu ne vous condamne pas, ok? Vous êtes les bienvenus. Mais Jésus est là et il vient s'adresser à Thomas et puis il dit voici je suis venu entre guillemets spécifiquement pour toi. Il s'adresse à Thomas. Si tu es ici aujourd'hui, Jésus veut s'adresser à toi personnellement. Même si tu doutes de lui, même si tu t'es éloigné, même si tu penses que tu n'es plus digne de lui, lui, il se dit, je me tiens devant toi. Toi, tu peux peut-être te penser loin de lui, mais lui n'est jamais loin de toi. Thomas était là. Il disait, Dieu, Jésus est où? Jésus est où maintenant? Jésus est apparu devant lui. Jésus est là par son esprit aujourd'hui. Et je prie que le Saint-Esprit souffle en toi un vent pour que tes yeux s'ouvrent et que tu le ressentes, que tu le vois, que ton esprit le voit. Combien le veulent ce matin? Moi, à 16 ans, j'ai reçu, quand je me suis connecté à Dieu, quand je lui ai demandé pardon, il y a un feu qui était en moi. Il y a un feu comme je le sentais, comme une boule de feu en moi. J'avais jamais ressenti ça avant. Mais spirituellement, il y a quelque chose que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais même si Jésus comprend tes doutes, il ne veut pas que tu vives sous les doutes toute ta vie. C'est pour ça qu'il ne te condamne pas, il veut te rassurer. Et c'est mon deuxième point. Mais il t'invite à faire un pas de foi. Jésus t'invite à faire un pas de foi. Thomas voulait trois preuves, tactile et visuelle. Il faut que je voie ses marques et il faut que je touche ses mains. Il faut que je touche ses cicatrices. Sinon, je ne croirai pas. C'était quand même assez quelque chose de très rationnel, de très logique. Thomas a demandé trois preuves spécifiques. Et Jésus lui a donné. C'est fort. Waouh, quel privilège. Mais Thomas avait un ministère incroyable. Il devait aller annoncer l'évangile dans toute une région du monde qui ne connaissait pas du tout l'évangile. Thomas a eu un ministère. Il est mort en martyr. Thomas a eu une rencontre avec le Jésus ressuscité. Il était un douteux et il est devenu quelqu'un qui a proclamé toute sa vie. Comme Pierre, qui a renié Jésus trois fois, mais qui ensuite est devenu quelqu'un qui proclamait. Peu importe tes doutes en ce moment, Dieu peut les transformer pour que tu deviennes le soldat spirituel le plus fort. Est-ce que quelqu'un est là? Il change le mal en bien. Même si en ce moment tu dis, c'est difficile, Jésus dit, fais-moi confiance. Thomas, Jésus lui a donné ce qu'il lui a demandé. Et c'est à ce moment-là qu'il a proclamé la première proclamation après la résurrection de Jésus. Jésus est apparu 13 fois après sa résurrection. Mais ce texte-là, c'est la première fois où il y a quelqu'un qui proclame Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Vous imaginez? Dans les évangiles, la première personne qui proclame Jésus comme le sauveur et Seigneur, c'est un douteux. C'est celui qui est... Non, mais vrai. C'est pas, oh wow, il était rempli de foi. Non, il avait des doutes. Qu'est-ce que ça me rassure? Que c'est pas à propos de moi ou de mes doutes ou de mes insécurités ou des choses, c'est à propos de qui est Jésus et de ce que lui fait en moi. Ce n'est plus moi qui dois vivre, c'est lui en moi. Et alors, je serai ce que je dois être devant Dieu. Je suis pas identifié par mes doutes ou par mes péchés ou par mon passé, je suis identifié par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. Et ses marques montrent qu'il m'aime, qu'il m'a sauvé et que son amour surpasse tout. Le péché abonde, mais la grâce surabonde. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Maintenant, il faut qu'on sache que dans la parole, là, Thomas a eu exactement ce qu'il avait demandé à Dieu. Je veux trois preuves et Jésus lui a donné les trois. Je vous le dis, sans être une mauvaise nouvelle, Dieu ne répond pas toujours à toutes nos requêtes. Dieu ne nous donne pas toujours les preuves exactes qu'on a besoin pour enlever le doute. Parce que si Jésus te donnait toutes les preuves que tu as besoin, à quoi te servirait la foi? Et vous savez comment on plaît à Dieu? Par la foi. Notre foi, c'est avoir confiance entière en Dieu. Que je vois, que je ne vois pas, que je comprenne ou que je ne comprenne pas. J'ai confiance en Jésus et ce qu'il me dit de faire, je le fais. Que ça fasse du sens pour moi maintenant ou pas, ma confiance est en lui. La foi, c'est l'ultime test de l'amour en fait. Dans un couple, si l'autre essaye de toujours contrôler, de savoir, qu'est-ce que c'est pas de l'amour, c'est de la méfiance, c'est du contrôle. Mais quand tu as confiance en disant, je sais pas ce que l'autre fait en ce moment, je sais pas, mais j'ai confiance. Ça, c'est une preuve de l'amour. Si tu veux montrer à Dieu combien tu l'aimes, aie confiance en lui. Obéis à sa parole, peu importe si pour toi ça fait du sens ou pas. Peu importe si les gens autour de toi te disent, c'est passé ça. Pourquoi suivre encore ces règles-là? Ces règles-là font que l'humanité tourne bien comme il faut. Il faut que Jésus soit glorifié en toutes choses, même dans un monde qui est déchu et qui est loin de lui. Les chrétiens qui restent fixés sur cette parole vont et passent, même dans les moments les plus difficiles, ils brillent d'une lumière qui montre au monde que nous sommes les disciples de Christ et que Jésus vit en nous. Il y a quelque chose de fort dans l'obéissance à la parole. C'est pas toujours simple d'obéir. Je vous le dis, on est humain. C'est difficile d'obéir. Mais il faut que nous le fassions parce que c'est comme cela que Dieu se manifeste au travers de nous. Il faut que nous comprenions que la parole de Dieu a une souveraineté au-dessus de nous. Il faut qu'on obéisse à cette parole. Mais voici ce que Jésus dit quand il parle à Thomas. Vous savez quoi? Quand il parle à Thomas, il a parlé de vous et de moi. Il va voir Thomas et il dit, maintenant, toi, tu as vu, et donc tu as cru. Mais heureux ceux qui croiront sans voir. Il parle de vous et de moi. On ne peut pas voir Jésus aujourd'hui physiquement, mais nous pouvons le voir par les yeux de la foi. Si tu places ta foi en Jésus, sans même avoir toutes les preuves, tous les raisonnements à tes questions et le côté cartésien et logique, non, si tu mets ta foi en Jésus en disant « je crois qu'il est sauveur et Dieu, je veux mettre ma foi en lui », Jésus t'a appelé heureux. Combien veulent être heureux ici? Il dit qu'il y a une mesure de joie à celui qui place sa foi en Jésus sans avoir toutes les réponses à ses questions. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu la lises, c'est pour ça qu'il faut la comprendre et la mettre en pratique. Il y a un danger de croire que la foi, c'est juste émotionnel. J'ai déjà rencontré des gens qui disent, mais pourquoi pasteur, je ne ressens plus la présence de Dieu? Il y a comme quelque chose, le feeling que j'ai pu. Il y a une expérience que j'ai pu. Je pleure plus forcément dans la louange, ou j'ai plus les frissons qui se dressent, ou je fais plus le bacon comme j'ai déjà vu. Il y a comme une expérience émotionnelle parfois qu'on a vécue et qu'on veut comme définir ça. Et dès que tu ne vis plus le côté émotionnel de la présence de Dieu, je dis pas que la présence de Dieu n'est jamais émotionnelle, mais elle ne peut pas se définir seulement par les moments émotionnels. Vous êtes d'accord? Je le dirais comme ça. Nos émotions ne sont pas les seules évidences de la présence de Dieu. Oui, on doit adorer Dieu corps, âme et esprit. OK? Mais si tu résumes juste mon feeling, je sens que Dieu est là ou pas? Non, Dieu est toujours là. Dieu est présent. Quand tu pries, Dieu t'entend. Que tu le ressentes ou pas, que tu aies le frisson ou pas, Dieu t'entend. Vrai ou pas? Il faut que nous comprenions que la présence de Dieu est là en tout lieu. Et nous devons, par la foi, nous approcher de Dieu. Il y a aussi un danger de croire que la foi doit être seulement logique. Il faut que mon intelligence valide tout ce que Dieu fait. Sinon, ça fonctionne pas. Je vous le dis, Proverbe 3:5, la parole de Dieu dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Parce qu'il y a des choses qui ne seront pas logiques aujourd'hui, mais qui vont être très logiques dans 10 ans. Quand Dieu te dit « Non, c'est pas cette relation que je veux là pour toi. » Ça paraît pas logique, tout va bien, tout fonctionne. Mais Dieu est en train de te protéger d'une relation toxique d'ici 10 ans. Il y a quelque chose où si on comprend la parole de Dieu et qu'on dit « Je vais pas aller selon mon intelligence, mais selon l'intelligence de Dieu qui a été révélée par la sagesse de Dieu, par ce livre. » Là, ta marche chrétienne va avancer de victoire en victoire et de gloire en gloire. Est-ce que je peux entendre un amen? Certains n'avancent plus parce qu'ils n'ont pas toutes les réponses. Mais Jésus aujourd'hui te dit, fais-moi confiance. On n'aura pas toutes les réponses à nos questions. Il y a des pourquoi qu'on n'aura jamais la réponse sur cette terre. Puis je vous le dis parce que il faut qu'on soit vrai. Si tu t'attends à avoir toute la connaissance de Dieu aujourd'hui, ça ne se fera pas. Il est Dieu et nous ne sommes pas. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Même s'il nous révélait tous les pourquoi, on ne serait même pas capable de les prendre. Dieu est Dieu et c'est pour ça qu'il te dit, tu ne comprendras pas tout sur cette terre. Il y a des situations que tu vas passer que tu comprendras pas. Il y a des doutes que tu auras, il y aura des insécurités que tu auras, tu ne sauras pas pourquoi, mais tu le sauras un jour là-haut. Parce que vous le savez, là-haut, toutes nos larmes seront effacées. Tout ce pourquoi on a prié puis qu'on n'a pas vu, là-haut, tout sera révélé, le pourquoi. Nous aurons la connaissance de Dieu, nous aurons Jésus face à face pour l'éternité. Et là, il n'y aura plus de questionnement, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de chaîne, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance. Est-ce que je dois continuer? Nous aurons la gloire de Dieu devant nous et pour l'éternité. C'est ça notre espérance, que même si je comprends ou pas ici, je sais qu'un jour, mon âme, elle, mon esprit, ne mourra pas et il le rejoindra pour l'éternité. Et c'est ça ma consolation. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Alors que les musiciens s'approchent, la foi n'est pas l'absence de doute, mais la capacité d'avancer malgré mes doutes. Si Dieu te donnait toutes les preuves que tu lui demandes, tu n'aurais pas besoin de la foi. Mais c'est par la foi que tu plais à Dieu. C'est quand tu dis « Je ne sais pas, Seigneur, mais je te suis. Je ne te ressens pas, mais je te suis quand même. Je n'ai pas le goût, mais je te loue. Je devrais regarder tous mes problèmes et tous mes doutes. Non, mais je choisis de regarder à la croix. » Parce qu'au plus je te fais grandir dans mon cœur, au plus mes soucis deviennent petits. Et oui, ça fait pas de sens pour cette vie ici, ça fait pas de sens pour la foi, ça fait pas de sens pour la science. Des fois, des gens me parlent en me disant, mais moi, si j'ai les preuves scientifiques que Dieu, tu pourras pas prouver que Dieu existe scientifiquement. La science, elle est la science naturelle. Dieu est surnaturel. Tu peux pas le mettre dans une épuisette et essayer de voir avec, oh oui, mais regarde, ça fait du sens. Ça fait pas de sens logiquement. Mais la logique de Dieu, c'est une folie pour le monde. Et la science ici humaine, je suis pas en train de dénigrer la science, mais je veux dire que même les plus grandes prouesses scientifiques, technologiques, sont une folie pour Dieu. Parce que Dieu dit, je suis Dieu et vous ne l'êtes pas. C'est pour ça qu'il te dit, fais-moi confiance. C'est moi qui dirige ta vie. Si tu places ta vie dans les mains de Dieu, tu n'as rien à craindre. Tu sais que ça va t'amener à bon port. Même si des fois tu dis, hey, j'ai l'impression de faire un détour, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que notre foi doit être confiante en lui, en sa parole, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on proclame le nom de Jésus-Christ, il y a les ténèbres tremblent, les maladies s'enfuient, il y a quelque chose de fort qui se passe. C'est pas logique, non, c'est spirituel. C'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous donne une passion, il nous donne une foi qui est renouvelée pour que nous puissions annoncer dans ce monde de ténèbres qui cherche une vérité, que la lumière se trouve en Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Est-ce qu'on peut l'applaudir ensemble? Et alors que les musiciens, on va arriver à un temps de prière et d'appel. Je termine avec cela. Alors que j'étudiais le texte, Dieu m'a parlé alors que Thomas est là et puis il a plein de doutes, il est rempli de doutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Mais le texte dit que Jésus est apparu. Ce qui est fort, c'est que Jésus avait un corps glorifié, c'est-à-dire qu'il n'était plus physiquement sang et chair. Il y avait un côté où c'était le corps glorifié de Christ, donc pleinement spirituel, vous me comprenez? Avant, Jésus sur cette terre avait les limitations humaines. Il était 100% Dieu, mais 100% homme. Mais il avait les limitations humaines. Si je pousse, avant d'aller à la croix, Jésus même a douté à Gethsémané. Est-ce que je suis obligé de prendre cette coupe? Est-ce que je suis obligé d'aller à la croix? Et rapidement, il est revenu à la volonté de Dieu. Hey, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Physiquement, Jésus a été tenté comme nous. Dans une souffrance, dans un doute, dans les insécurités. Il a vécu ce que nous avons vécu. Il n'a péché en rien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'a péché en rien, mais il a été tenté en toute chose. Ça veut dire que physiquement, Jésus avait des limitations, mais quand il était glorifié, il n'avait plus de limitations. Quelle gloire! Quand je regardais ça, je me dis, nous aurons le même corps que Christ, une fois là-haut. Et alors que le texte nous dit, les portes étaient fermées, Jésus est apparu. Plus aucune limitation physique. Et alors qu'il est là, je me dis, c'est fort, parce que le texte dit que Jésus était présent. Mais pour que Thomas expérimente Jésus et pour qu'il voie et que ses doutes soient dissipés, Thomas a dû faire un pas de foi vers Jésus. Jésus était présent, mais Jésus lui a dit « avance ». Thomas a dû faire un pas pour aller toucher, voir. C'était fort parce que Jésus aurait pu prouver de tant de manières différentes qu'il était le Fils de Dieu et le plus grand. Il aurait pu faire exploser une planète en pleine... Il aurait pu faire quelque chose d'époustouflant, d'incroyable, waouh, phénoménal. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus, pour prouver qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était Dieu, Jésus-Christ, mort et ressuscité? Il lui a juste tendu les mains. Il lui a ouvert les bras. Jésus aurait pu, et c'est ce qu'on croit, des fois lui tourner le dos. T'as douté, t'es pas digne de moi. Non, Jésus, il a dit, tu as douté de moi, mais regarde, je suis là. Je t'ouvre les bras. Si tu es là aujourd'hui et que tu doutes, si tu es là et que tu dis, regarde, je suis pas digne de lui, je suis loin, puis je sais même pas, et puis est-ce que Dieu m'aime encore, est-ce qu'il m'entend? Jésus est ici et il ouvre ses bras. Il te dit, regarde les marques. Ça, c'est ce que j'ai vécu à la croix. Ça, c'est les marques de mon amour pour toi. J'ai souffert pour que toi, tu ne puisses plus souffrir spirituellement. Je suis mort pour que toi, tu ne sois pas mort loin de moi pour l'éternité. Je t'ai donné ma vie pour que tu puisses l'avoir en abondance ici et dans l'éternité, être dans la gloire éternelle. Jésus a ouvert ses bras comme pour dire, je ne te tourne pas le dos, je te montre qui je suis. Et il l'a fait avancer proche de son côté. Comme spirituellement pour lui dire, il faut que tu sois proche de moi. Et là, Thomas a vu le côté percé. Il y a quelque chose de fort alors que Jésus aurait pu être en haut, au-dessus de tous ses disciples, comme majestueux. Non, il était à leur niveau en disant, je t'ouvre les bras, viens juste à moi. Est-ce que ça veut dire que Thomas n'avait plus aucun doute à partir de ce moment-là? Non, je vous le dis. Tant qu'on est sur cette terre, on aura des doutes jusqu'à la fin. Mais Thomas a une foi qui l'a aidé à proclamer, Jésus est Dieu et Sauveur. Mon Dieu, mon Seigneur, il y a comme quelque chose de fort. Et c'est la même déclaration que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Malgré tes doutes, Dieu veut te dire, fais-moi confiance. Mets ta confiance et proclame Jésus au-dessus de tes doutes, de tes questionnements. Parce que tu le sais, dans cette vie, tu n'auras pas toutes les réponses. Et même si tu crois que de t'éloigner de Dieu, ça va te donner plus de réponses. Au contraire, ça va te donner encore plus de flou, encore plus de questionnements et tu n'auras personne qui va te donner la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La confiance que nous avons en Dieu, c'est de mettre notre vie en lui et de dire, je viens voir les marques. À la croix, il te voyait, toi et moi. Parce que Jésus a porté le poids de l'humanité, péché, passé, présent, futur. Ça veut dire que quand il mourait, il avait ton nom, il avait ton visage en tête. Il te voyait et puis il disait, ce que je fais là, c'est pour toi. Je t'aime, c'est pour ça que je meurs, pour que toi, tu ne meurs plus. Mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité 3 jours après. Pour dire en fait que dans cette vie, même la mort n'a plus aucun lien sur nous. Aucune souffrance ne pourra nous séparer de Dieu. Aucun péché, aucun doute. En fait, je vous le dis, Jésus est mort pour nos péchés et il est mort aussi pour nos doutes. Alors ne laisse jamais un doute t'éloigner de Jésus parce que le doute a été cloué. Oui, on vit encore en ce moment avec du péché, avec des doutes, des insécurités. Mais vous savez quoi? Nous sommes libérés du joug du péché. Si tu places ta vie en Jésus, tu es couvert par son sang. Pardonné de tes péchés. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas par tes doutes, tes insécurités, ton passé. Il te voit au travers de Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, Dieu te voit comme Jésus. Parfait. Est-ce que c'est fou? Oui, mais c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de lui et courir dans ses bras comme un enfant qui voit son papa. Si aujourd'hui tu crois que Jésus te condamne, non. Si mon fils a des doutes sur mon amour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le chicaner et puis je vais m'énerver contre lui. Au contraire, je vais m'agenouiller et je vais dire, ne crains jamais que mon amour ne changera pas. Même si tu fais des bêtises, même si tu fais des choses, je suis ton père et je t'aime. Si moi, imparfait comme je suis, j'essaye d'être un bon père avec un amour, combien plus forte raison notre Père, qui est notre Créateur, nous aime et nous ramène dans ses bras. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui t'aime et qui est mort pour toi? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux un instant alors que j'aimerais prier pour nous ce matin? On a tellement besoin de Dieu, moi le premier. Encore 7 semaines, il y a des fois où on surspiritualise des gens dans le ministère, mais les doutes font partie de la vie chrétienne, comme des tentations qui viennent. Il y a encore quelques mois, je me suis surpris à douter de l'existence de Dieu et tout ça. Et rapidement... Parce que ma foi a pris le dessus maintenant. Je sais comment combattre, mais je me disais, oh, qu'est-ce que je suis faible. Ma chair est faible, mais l'esprit est fort. Et c'est pour ça que je ne veux pas laisser de place à qui je suis. Je veux laisser de place à Dieu en moi. Si j'ai accepté, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux que ce soit lui qui dirige ma vie. Je veux que ce soit en lui que ma confiance est totale. Pas dans cette société, pas dans la culture, pas dans ce que les gens disent que Dieu est ou n'est pas. Non. Ma confiance est en Christ. Ma foi est fortifiée au travers de la parole de Dieu. Ma marche chrétienne est solidifiée par l'Église et le corps de Christ quand je viens ici. Alors que je suis faible, Christ est fort en moi. Alors que tout le monde a les yeux fermés, c'est vraiment la dernière minute de cette matinée. Mais je crois réellement qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent prendre une décision. Comme on l'a vu, Jésus est ici présent par son esprit. Mais c'est à toi de faire le premier pas vers lui. Il te tend les bras, il t'ouvre les bras et dit « Viens, approche-toi de moi. » Même malgré tes doutes, malgré ton péché, malgré tes choses, Dieu t'aime tellement qu'il t'accepte tel que tu es. Mais Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Alors il veut remplir ton cœur. Il veut te donner un nouveau cœur, une foi qui est ferme, une foi qui est solide. Il veut changer ton péché en une joie. Parce que tu ne seras plus défini par ce que tu as fait, mais tu seras défini par ce que Jésus a fait à la croix. Il a donné sa vie pour que tu le reçoives. Alors aujourd'hui, ne refuse pas ce cadeau. Approche-toi de lui parce qu'il t'ouvre ses bras. Il y a peut-être des chrétiens ici qui doutent en ce moment, qui ont besoin de revenir et de se reconsacrer à Dieu en disant « Seigneur, je remets ma foi au-dessus de mes doutes. Je te remets toi au-dessus de nous. » Et alors que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel à celui peut-être qui a pas encore donné sa vie à Christ et qui doute et qui dit « Mais je veux crier comme Thomas. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Malgré mes doutes, je veux mettre ma confiance en lui. » Si c'est ton désir aujourd'hui, si tu vois que Dieu t'aime tellement que tu veux répondre à cet amour, fais juste lever la main là où tu es. Juste Dieu qui te voit, mais symboliquement, de prendre un acte de foi, de lever sa main. Merci pour les mains qui se lèvent. Quelqu'un dit aujourd'hui, oui, moi, je veux changer de vie. Je veux avancer pour sa vie. C'est lui qui a les rênes de ma vie. Je veux qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Et c'est la meilleure vie que tu vivras. Parce que ça ne sera plus le péché qui va t'identifier, qui va te donner une identité. C'est Christ et c'est son salut. Merci pour les mains qui se sont levées. Mais je veux faire un deuxième appel. Il y a peut-être des chrétiens ici qui marchent dans la vie chrétienne, mais qui depuis des semaines, des mois, peut-être des années, ont de la difficulté avec certaines choses de la vie chrétienne. Et le doute a tellement envahi ton cœur que maintenant tu deviens incrédule, tu deviens froid, vide. Dieu veut changer ton cœur de pierre aujourd'hui, une nouvelle fois, te remplir de l'esprit pour que tu puisses voir sa bonté, voir sa grâce. Ne plus être sceptique, mais au contraire, être heureux à voir la bonté de Dieu. Si tu veux que tes yeux s'ouvrent, et si tu veux être comme Thomas à dire « Maintenant, je veux plus être le douteux, je veux être celui qui a la foi. » Fais juste lever ta main là où tu es. Je veux prier pour une église qui est grandie dans la foi. Merci pour les mains qui se lèvent. Je lève la main aussi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Augmente ma foi. Seigneur, je te prie pour nous aujourd'hui. Seigneur, on est là à vouloir avancer proche de toi, Seigneur. Mais ce monde est tellement difficile, il nous emmène complètement loin de toi. Mais toi, tu es présent ici. Et Seigneur, on veut écouter rien d'autre que ta voix qui nous appelle et qui nous dit « Je t'aime, reviens à moi mon enfant. » Seigneur, merci parce qu'on revient à toi, on court dans tes bras. Seigneur, tu nous connais, tu sais combien on est faible, tu sais combien on a des doutes, on a des insécurités, on a plein de choses, des patterns dans notre vie, mais Seigneur, toi, tu ne nous tournes pas le dos, tu nous ouvres les bras et tu me dis « Fais-moi confiance, marche avec moi, je marche avec toi. » Seigneur, merci parce que ton esprit est ici, tu viens sceller ce qui a été fait. Et Seigneur, merci parce que tu sauves encore. Aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom que je prie, le nom de Jésus que je prie et tout le monde dit un dernier grand amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu a fait ce matin? Est-ce que je peux entendre un cri de joie dans sa maison? Est-ce qu'on peut se lever ensemble?